radio stuck pan CKUT. And you don't know. But nah, fix it. CKUT, the number one radio station in Montreal. We give you the sun, the moon, the rain, the stars and the mountain. CKUT give you the word.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassaigne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, chant, conte et francophonie, la chorale de l'Acadie est en pleine campagne de recrutement à la veille de son 50e anniversaire.
N'importe qui aime chanter. Si ça tente, si t'aimes chanter, viens essayer, viens voir le monde, puis voir qu'est-ce que ça a de l'air. Puis c'est ça, le plaisir de chanter en groupe, là, on n'a pas besoin d'avoir une voix extraordinaire. En autant qu'on a une voix juste, là.
Le conteur, chanteur, acteur, musicien, cinéaste et scénariste Fred Pellerin lance sa nouvelle tournée de spectacle et il le rôde lors d'une avant-première surprise à Fermont sur la Côte-Nord au Québec.
J'aurais pas pu te dire avant le spectacle si vous étiez les chanceux de la Côte-Nord parce que je savais pas comment ça allait se passer, si j'allais bien le jouer, bien le raconter. On est un peu les chanceux et vous et moi ce soir de découvrir cette histoire-là parce que je travaille en impro, fait que tu sais, à moitié je la découvre en même temps que je vous la raconte. En tout cas, c'est un moment magique.
Et on prend une pause avec notre journaliste Hélène Lequitte en Alberta, avec qui on discute à bâton rompu du paysage politique francophone de cette province de l'Ouest canadien.
C'est une francophonie beaucoup plus métissée qu'il y a 100 ans, justement, où c'était des francophones qui arrivaient, qui exploitaient des terres, qui avaient des fermes. Là, on a une francophonie, oui, qui vient d'Europe, du Québec, d'Afrique aussi beaucoup. C'est de comprendre le visage de cette nouvelle francophonie et de l'intégrer dans les enjeux.
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On fait d'abord un petit crush vers la ville minière de Fermont au Québec. Fermont qui, selon le recensement de 2016, comptait moins de 2400 résidents permanents. Elle n'est pas à la porte, à quelques 17 heures de route de la ville de Québec, 20 heures de Montréal. Fermont qui avait la chance, même le privilège, de recevoir le conteur Fred Pellerin. Monsieur Pellerin qui réservait une surprise aux Fermontois, qui est arrivé sur scène en rodant son nouveau spectacle et conte intitulé « La descente aux affaires ». Un spectacle qui fera partie d'ailleurs de sa prochaine tournée de 4 ans, qu'il a lancé ce printemps et qui reprendra cet automne. Le spectacle qui devait être présenté était son précédent conte, en fait, un village en 3D, D-E accent aigu S. À la sortie de son spectacle, Fred Pellerin a expliqué que la décision de tester son plus récent récit a été prise seulement quelques jours avant sa visite dans cette ville minière et nordique. La dernière visite de Fred Pellerin à Fermont datait d'il y a environ 8 ans. Celle-ci avait été décalée de 2 ans en raison de la pandémie. Notre journaliste Elisabeth Séguin a eu le plaisir, la chance de rencontrer Fred Pellerin.
Fred Pellerin, salut!
Salut!
Comment ça va?
Ah, ça va bien, c'était une belle soirée. En fait, je me suis joué un tour un peu à soir, puis j'ai joué un tour au public aussi. Puis j'ai plongé dans ce qui va être le prochain spectacle, en fait. J'ai osé roder mon spectacle que j'avais pas fait. Fait que ça devient un peu le soir 1 d'une tournée flambant neuve. Je suis content, ça a marché. Le public a super bien reçu ça. Puis je leur ai dit qu'à la fin du spectacle que c'était neuf. Puis, fait que voilà.
Ouais, c'était comme une surprise parce que depuis le tout début, en fait, depuis que ça a été annoncé avant 2020, c'était un village en 3D qui était annoncé. Même là, dans nos publicités à la radio, ça tournait comme étant un village en 3D. Ouais. C'est complètement autre chose qui a été présenté, si je comprends bien, avec des personnages qui reviennent, mais quand même, c'est le même univers, mais tout un nouveau spectacle. Comment c'était, là, sur scène, de présenter ça ici à Fermont, devant le public ici?
Ben, c'était le fun parce que, tu sais, le village en 3D, il était annoncé, mais cette tournée-là, normalement, était supposée être finie il y a longtemps. La COVID a fait qu'on a fait des reports. Mais, tu sais, j'avais déjà fait un grand extrait de Village en 3D avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui était diffusé sur Radio-Canada. Ça a été vu par 1 million de personnes. Ça. Fait que, tu sais, je commençais à trouver que le Village en 3D avait eu son temps. Puis, ben moi, de mon côté, je commençais à écrire le prochain spectacle parce que normalement, à l'automne prochain, moi, je prends la route avec un nouveau spectacle. Puis, finalement, j'ai eu plus de temps que prévu pour l'écrire. Puis, pendant que je faisais ma cabane à sucre cette année, j'écrivais. Puis, j'arrivais avec ce que je pense une de la structure d'un spectacle. Fait que tu sais, en même temps, pour moi, il y avait quand même un stress d'arriver dans des histoires neuves parce que je sors d'un spectacle que j'ai fait 350 fois. Fait que je rentre dans un spectacle que j'ai fait zéro fois. Mais en même temps, il y a cette affaire-là de... Tu sais, je trouve que c'est une belle salle pour essayer ça. On était quoi, 250 personnes peut-être? Fait que tu sais, on n'était pas devant un 1000, là, un paquebot à déplacer. Ça fait des retours rapides, ça. Quand c'est des petits groupes, tu sais, les réactions sont vives, ça va vite, ça va... Puis, fait que pour moi, je trouvais que l'occasion était belle de faire ça.
Et quand même, à Fermont, on est loin. Tu l'as dit durant le spectacle, la dernière fois que tu es venu, c'était il y a 8 ans de ça, donc ça fait quand même longtemps. Comment se passe ton retour ici à Fermont? Comment est-ce que tu le vis?
Bien, j'étais content. Puis comme je disais, étrangement, Nathalie, qui est l'organisatrice du spectacle, quand on était embarqué dans son auto, elle dit, sais-tu, c'était quoi mon rappel de Facebook, je sais pas quoi, hier? C'était une photo de nous, il y a 8 ans pile. Fait que d'habitude, normalement, on refait les villes qu'on visite, on les refait aux 4 ans à peu près, parce que nos tournées durent ça, 4 ans. Mais c'est ça, fait que là, on doit avoir sauté un tour, je sais pas. J'espère. Puis, tu sais, je l'ai pitché de même en l'air, mais l'image, elle serait le fun, le symbole serait le fun. J'aimerais bien que, comme on a fait le spectacle 1 ici, qu'on puisse, dans 4 ans, revenir avec le spectacle 342 pour peut-être venir la fermer, cette tournée-là, chez vous.
Pour faire la clôture à Fermont, et quand même, on est éloigné, on est sur la Côte-Nord. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un peu les chanceux là, de la Côte-Nord d'avoir pu vivre ce moment-là du premier spectacle de cette nouvelle tournée en fait, que tu es en train de lancer? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire le titre de ce spectacle-là?
Le spectacle s'appelle « La descente aux affaires », puis c'est sur Toussaint-Brodeur qu'on s'arrête. Si tu le disais tantôt, on revient toujours avec le même village, avec les mêmes personnages. Cette fois-ci, on prend Toussaint-Brodeur, le gars du magasin général, comme vedette du conte. Puis c'est lui qu'on suit dans sa quête effrénée du profit, de l'argent et de tout, puis qu'on se rend bien compte qu'il réussit plein d'affaires dans sa vie, mais qu'il réussit peut-être pas nécessairement sa vie. Fait qu'on le voit jusqu'à la fin, compter son argent, puis un jour se plaindre parce qu'il y a des secondes qui manquent pour faire ce qu'il aurait voulu faire réellement. Fait que c'est un peu ça que ça raconte. Puis après, ben c'est ça. Fait qu'on on reste dans l'univers du village, dans cet univers-là qu'on connaît, qu'on côtoie, puis... j'aurais pas pu te dire avant le spectacle si vous étiez les chanceux de la Côte-Nord parce que je savais pas comment ça allait se passer, si j'allais bien le jouer, bien le raconter. Mais finalement, je pense qu'on est un peu les chanceux, et vous et moi, ce soir, de découvrir cette histoire-là parce que je travaille en impro. Fait que, tu sais, à moitié, je la découvre en même temps que je vous la raconte. En tout cas, c'est un moment magique.
Effectivement, je pense que les gens l'ont senti aussi. À 2 reprises, les gens se sont levés dans la salle à la fin là, pour applaudir, ouais, et encourager et tout ça. J'imagine que toi aussi, tu étais content du succès, en fait, qu'a eu ce nouveau conte-là pour toi.
Oui, puis tu sais, je le sentais. Les gens étaient là, la réaction était vive, était rapide. Les gens ont ri, les gens étaient touchés. Parce que j'essaye de... Tu sais, j'ai une image de gars qui fait rire quand je raconte, mais j'essaye aussi d'amener quelque part dans une réflexion, dans des questions, dans des doutes, Puis ça aussi, je pense... c'est à travailler, j'ai des affaires à peaufiner, mais je pense que le spectacle est appelé à aller dans ces zones-là aussi, qui sont un peu plus tendres, un peu plus dans la réflexion.
Et est-ce que ça veut dire que dans 4 ans, on aura probablement le plaisir de te revoir ici à Fermont?
Ben, on devrait tout de suite mettre une pétition, je sais pas où, au dépanneur, pour que Nathalie me réinvite dans 4 ans. Ce sera avec plaisir que je reviendrai.
Excellent. Bien, on vous souhaite un beau séjour ici à toi et ta gang qui avait fait tout le chemin jusqu'à Fermont, et un bon retour également. J'imagine que là, vous avez d'autres dates là, qui s'en viennent de tourner tout ça pour la suite de cette nouvelle facette de ce spectacle-là.
Oui, là, je pars en Suisse, puis après ça, je reviens. Après, je pars à Nouveau-Brunswick. J'ai, je pense, 6 ou 7 dates à Nouveau-Brunswick. Puis après ça, je reviens. Puis après ça, je fais mon été. Cet été, l'été, je prends jamais de spectacle parce que c'est beaucoup des festivals extérieurs. Puis comme les contes, ça demande quand même une écoute particulière, mais c'est pas l'idéal pour dehors. Fait que ce que j'ai fait cet été, c'est que je me suis pris un contrat pour écrire un nouveau film. Fait que je vais faire ça pendant l'été. Je vais écrire un nouveau scénario. Puis ce spectacle-là va prendre la route officiellement en septembre. Ça veut dire qu'à partir de septembre, on est décollé en fou pour faire des dates sur les années qui viennent.
Et nous, on va avoir eu le plaisir de le voir un peu en avant-première, là, carrément, là, pour l'avoir vécu avec toi ici à Fermont. Ouais. Fred Pellerin, bonne route, bon vol, bon tout ce qui s'en vient avec toi et tous tes projets. Et au plaisir de se reparler peut-être dans 4 ans.
Mais ça sera avec grand plaisir. Merci à toi.
Après, juste après la toute fin, dans le moment où s'ouvre l'immense, le bout de fil que je tiens dans ma main, c'est là que ton histoire commence. Les souvenirs, ces oiseaux qu'on a nourris de détails, mille petits riens semés au vent d'avant sont des images qui aujourd'hui s'éveillent, qui viennent dérouler un peu de ton temps. Il y a la vie qui suit la vie quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. La place vide, cette chaise qui est restée, que je côtoie, une chaise libre, silencieuse, immobile. Elle est si vide qu'elle est pleine de toi. Et tous les jours, dans les détours, je rencontre ton absence. Elle porte encore tes habits, tes contours. Elle va et promène ton ombre en silence. Il y a la vie qui suit la vie quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit. Il y a la vie qui suit la vie quand la parole prend le relais, celle d'après, celle qui se dit.
Alors Fred Pellerin est souvent calme comme ça sur ses disques déjà nombreux. Ici, le titre qu'on a entendu, « La vie qui suit la vie », était chanté avec Joran. La tournée de Fred Pellerin va le conduire à se produire un peu partout au Canada. Il va prendre la scène ce printemps dans les Maritimes et dès le mois d'octobre 2022 et jusqu'en 2023, il se produira dans une quinzaine de villes du Québec. Le cinéaste Francis Leclerc s'est inspiré d'ailleurs de l'univers de M. Pellerin pour réaliser le film « L'arracheuse de temps » sorti en 2021 et qui prend maintenant la route des DVD et des diffuseurs en ligne.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
L'ensemble vocal Les Voix de l'Acadie recrute de nouveaux choristes à l'aube de son 50e anniversaire. D'autant que la chorale se vante d'être un groupe accueillant, agréable et prévenant. Alors, inauguré en 1973, Les Voix de l'Acadie s'est donné pour mission de promouvoir la chanson francophone. Ses concerts ressemblent, disent-ils, plus à des spectacles qu'à un concert. Depuis que le groupe de chanteurs a introduit des éléments de chorégraphie et de mise en scène dans ses spectacles, la chorale a déjà produit 2 CD et tourne dès qu'elle le peut dans les provinces maritimes. Monique Pelletier, choriste au sein de ce chœur francophone, insiste sur le fait que Les Voix de l'Acadie a su mettre son répertoire au goût du jour. L'ensemble vocal s'est doté d'un répertoire moderne et d'un style musical varié allant de la pop au jazz, en passant par le chant classique. Sébastien Beltran, qui est en poste à Halifax, en Nouvelle-Écosse, rencontre Monique Pelletier, choriste et ancienne présidente de l'ensemble vocal Les Voix de l'Acadie, qui nous parle du groupe.
C'est un chœur francophone mix. On fait la promotion de la chanson française et on fait de la chanson contemporaine. Alors, ça n'a rien à voir avec les chorales d'église. Et c'est ça, on fait des chansons de tout genre en français. On fait de la balade, on fait du rythmé, on fait du jazz. On a fait, cette année, on a une chanson dans notre répertoire de Zaz, chanson récente, de Blue Jean Bleu. On va faire une chanson de Jerry Boulet là, qui a été refaite, là, toujours vivant, là, pour bien montrer qu'on est encore là. Et là, c'est ça, on profite que là, on va participer au spectacle du 30e anniversaire du CCGH, du Conseil communautaire, dont on fait partie, nous aussi, depuis 30 ans, pour dire au monde, ben, hey, on est là, on est encore là, on est présent. Et puis, comme on n'a pas pu faire de recrutement dans les dernières années à cause de la pandémie, ben, c'est là qu'on en profite de dire, ben, venez joindre la gang, c'est une bonne gang, c'est vraiment un plaisir de participer à cet ensemble-là. Mm-hmm.
Moi, je suis allé voir sur Internet ce que vous faisiez et j'ai été agréablement surpris de voir l'ambiance et la ferveur qui y règnent. Alors, il y a des jeunes et des moins jeunes, c'est vrai, mais l'harmonie est tellement plaisante qu'on se sent emporté par tout ce que vous faites.
Oui. Et nos concerts, nos spectacles, c'est en fait, c'est plus spectacle-concert parce qu'on introduit, vu qu'on chante sans cahier, on introduit de la chorégraphie, des mouvements, de la mise en scène. On a aussi produit deux CD, un CD de Noël puis un autre CD à l'occasion du 40e. Puis on a fait des échanges avec d'autres chorales. On est allé en tournée dans les Maritimes. Et il faudrait que je te parle aussi de la grande traversée qu'on a faite en 2004, qui, à l'occasion du Congrès mondial acadien qui avait lieu ici à Halifax, et qui a été commandée à un artiste acadien bien connu, Calix Duguay, qui racontait cette œuvre-là, racontait l'histoire du peuple acadien. Alors, c'était il appelait ça un poème chantant, et de 50 minutes sans arrêt, là, et qu'on a fait, et après qu'on a présenté à l'île Madame, à Chétiquan, à Chipagan. Alors voilà, on fait plein d'affaires, on brosse plein d'affaires.
Effectivement, tu viens de le dire, vos activités sont variées, tout comme votre répertoire, et c'est ce qui crée l'attractivité de la chorale. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est que pour poursuivre vos activités, vous avez besoin de nouveaux chanteurs, mais dites-moi qui peut postuler et quel talent faut-il avoir pour se joindre à vous?
N'importe qui aime chanter. Et en autant qu'ils ont une voix juste, là, puis des fois, si on ne sait pas trop, bien, gars, on vient, on s'asseye et qu'on se dit, gars, si ça te tente, si tu aimes chanter, viens essayer, viens voir le monde et puis voir qu'est-ce que ça a de l'air. Puis c'est le temps, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Fait que...
Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui veut vous rejoindre, mais qui, comme moi, a peur de ne pas être à la hauteur. Alors, est-ce qu'il faut une voix particulière pour se lancer? Avez-vous des besoins précis?
Non, ça peut être... Regarde, t'as pas besoin d'être soliste. Des solistes, on en a. Puis c'est ça, le plaisir de chanter en groupe, là, on n'a pas besoin d'avoir une voix extraordinaire. Fait que, en autant qu'on a une voix juste, là, puis on n'a pas besoin de lire la musique. Il y a des choristes qui savent lire la musique, il y en a d'autres, non. C'est pas nécessaire. Il y a une de nos choristes, elle apprend tout de suite ses chansons par cœur, elle. Elle regarde quasiment pas ses partitions. Il y en a d'autres, il y en a une autre qui... Elle a un poste bilingue, puis pour garder son français, ben, elle aime devenir chanter. C'est sa façon, elle, de garder son français, etc. Fait que, non, on cherche pas de profil particulier, non.
Bye bye nuages, welcome soleil. Je t'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir,
une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petit cœur à réchauffer, des gens sur plage à colorer, refoncé ou rouge brûlé.
Lorsqu'on fait partie de la chorale, il faut assister à quelques répétitions et apprendre quelques chansons. Donc, est-ce que c'est difficile ou avez-vous des astuces pour faciliter le travail?
C'est ça. Non, c'est pas contraignant. Ça demande pas de travail particulier à toutes les semaines. On a, comme je disais, Daniel, notre chef de chœur, il nous met des outils, les MP3, sur le site web de la chorale rapidement. Bon, on peut les écouter. Ça l'aide si on les écoute une fois de temps en temps, tu sais, mais... Puis on pratique à toutes les semaines. On respecte les congés fériés de l'école. Quand il y a des congés fériés, l'école est fermée, on n'a pas de pratique. Des fois, on va avoir une pratique supplémentaire, une intensive les fins de semaine, chose qui n'est pas arrivée depuis un bon bout de temps, là, mais non. Puis c'est sûr qu'il y a un petit effort à faire pour apprendre nos chansons, mais à un moment donné, mais à force de les pratiquer, là, ça rentre très bien. Et en musique, ça s'en prend mieux.
Mm-hmm. En effet, apprendre une chanson, c'est bien plus facile qu'une poésie. Alors, on peut se rendre sur Internet pour avoir un aperçu de votre travail, mais on peut aussi vous découvrir, et vous en parliez tout à l'heure, le 7 mai prochain, à l'occasion du 30e anniversaire du Conseil communautaire du Grand Havre. Alors, expliquez-nous ce que vous allez nous présenter pendant cet événement.
On présente deux chansons toutes seules. Une qu'on a fait un vidéo de promotion avec, Welcome Soleil, et une autre chanson qui est une chanson qui a été réarrangée Toujours vivant, que je pense qui est de mise, là. Et on accompagne aussi quatre autres chansons. Il y a la chanson finale qui va être avec tous les artistes présents et trois autres qu'on accompagne les chanteurs. Là. Et il y en a une, entre autres, que c'est une choriste de notre chorale, là, Sonia, qui va faire saisir le jour, que je ne sais pas si c'est ceux qui ont regardé la finale de Star Academy, là. C'était la chanson finale de Star Academy, saisir le jour avec Laura Fabian. Et je veux rajouter aussi que des fois, les gens nous disent « Oui, mais on n'a pas d'auto pour se rendre là, gars. » Il y a du monde qui vient de Bedford, de Halifax, de Sackville. On peut vous trouver vous pouvez faire du covoiturage. Il y en a plein qui font ça.
Mais parfait. En tout cas, l'appel est lancé et c'est entendu. Merci d'avoir consacré quelques minutes avec nous.
Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie.
Bon, on sait que vous n'êtes pas à la porte et que si vous voulez postuler, vous allez faire pas mal de route. Et vous qui êtes ici à Point de vue en train de nous écouter d'un bout à l'autre du pays, mais qui sait, cette histoire va peut-être vous inspirer.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI.
On poursuit notre route dans le désordre et on s'arrête un moment en Alberta, prendre des nouvelles de notre journaliste Len Lequitte, qui a passé plus d'un an avec nous et qui va retrouver sous peu de nouveaux horizons professionnels. Len Lequitte vit depuis plus de 10 ans en Alberta. Elle a aussi effectué quelques arrêts plus à l'est et à l'ouest du pays. Elle est aujourd'hui bien ancrée dans la communauté albertaine et on a voulu profiter de son expérience, de son ancienneté, de sa lecture des enjeux qui marquent l'actualité de cette province. On a voulu en fait qu'elle nous en apprenne plus aussi sur la communauté francophone de cette province albertaine. Française d'origine, Hélène contribue, comme d'autres, à transformer peu à peu le visage de la francophonie de l'Ouest. Elle nous parle des franco-albertains, de ce qu'elle voit et entend depuis plus de 10 ans dans cette province et des défis que l'Alberta doit, selon elle, relever.
Il y a des petites perles rares qu'on ne soupçonne pas justement dans des régions comme ça éloignées. Puis c'est en lien avec, les communautés francophones, mais aussi avec l'histoire du Grand Ouest canadien, où les histoires des uns et des autres se recoupent en fait. Il y a plus de 85 000 francophones en Alberta, beaucoup plus que ça au niveau justement des personnes qui sont bilingues, et le bilinguisme fait partie intégrante de la culture albertaine pour ces francophones-là. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux aussi de la relève francophone, où il y a une francophonie qui change, qui a un visage qui change. Il y a l'aspect démographique, mais il y a l'aspect aussi, on va dire, c'est une francophonie beaucoup plus métissée qu'il y a 100 ans, justement, où c'était des francophones qui arrivaient, qui exploitaient des terres, qui avaient des fermes, les fameux franco-albertains. Là, on a une francophonie, qui vient d'Europe, du Québec, d'Afrique aussi beaucoup. Et ça, c'est un enjeu, c'est de comprendre le visage de cette nouvelle francophonie et de l'intégrer dans les enjeux. Bien sûr, on a beaucoup parlé du campus Saint-Jean, le problème de financement chronique de cette institution-là face à un gouvernement qui n'est pas, enclin à aimer la francophonie. Mais bon, voilà, en Alberta, c'est un gouvernement conservateur, donc c'est un gouvernement qui, de façon générale, n'est pas très enclin justement pour beaucoup de choses, pas que pour la francophonie, notamment au niveau de l'éducation supérieure, parce qu'il y a eu des réductions de budget qui n'ont pas touché que le campus Saint-Jean, mais toutes les universités à part entière, McEwan, l'Université de l'Alberta. Un gouvernement conservateur qui a du mal à avoir une vision sur le long terme, on va dire, sur l'avenir économique de cette province. Certaines personnes voient l'Alberta comme une pâle copie du Texas. On a beaucoup mis l'emphase sur le pétrole, mais ça aurait pu aussi être une sorte de Silicon Valley albertaine, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, justement. Il y a un problème de vision. On n'a pas suffisamment diversifié les revenus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a des personnes qui ont des niveaux d'éducation très, très, très élevés. Et il y a beaucoup de centres de recherche où il y a des sujets de recherche très pointus, comme notamment des thérapies sur le cancer. C'est à l'Université de l'Alberta. Là, en ce moment, on est en train de faire des essais cliniques, par exemple, sur une pilule révolutionnaire qui pourrait complètement enlever les tumeurs cancéreuses. Vous avez aussi des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est maladie d'Alzheimer à l'Université de Calgary, où vous avez même un centre de recherche à Lethbridge sur le fonctionnement du cerveau. On a des gens qui sont extrêmement pointus en recherche fondamentale, et ça, on n'en parle pas suffisamment, justement. Donc, l'Alberta, c'est une terre de contraste à bien des égards, c'est-à-dire que historiquement, c'était aussi un sol riche en tout ce qui est paléontologie, c'était la terre des dinosaures, mais c'est aussi un contraste en termes d'économie et de vision entre le potentiel, puis bah oui, des décisions politiques qui sont prises, qui ne sont pas vraiment en lien avec la réalité de terrain sur ce qui pourrait être, en fait, tout simplement. Là encore, c'est une question de vision. La transition énergétique, l'Alberta, elle est en retard. Parce qu'on mise toujours sur le pétrole. On parle d'hydrogène, c'est intéressant l'hydrogène, mais quand vous voyez aussi en ce moment que du côté de Gracie Mountain, il y a des projets d'exploitation miniers sur les flancs des rocheuses. À un moment donné, on voulait décapiter même une partie de la montagne rocheuse justement pour l'exploitation de charbon. C'est vrai qu'on voit qu'il y a un gouvernement qui est peu respectueux, on va dire, des règles. Donc, il y a beaucoup de travail à faire parce que malheureusement, il y a des personnes qui dirigent mais qui ne comprennent pas le potentiel. Donc après, bah, ça va être quoi l'alternative s'il n'y a plus le pétrole, parce qu'on va finir par y arriver. Donc oui, il y a l'hydrogène. Est-ce qu'on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qui va remplacer? Je pense que malheureusement, on n'en est pas rendu là. Et cette absence de vision, malheureusement, ça touche aussi beaucoup de domaines, hein. Même les services sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont sans abri, il y a beaucoup de problèmes de drogue, d'addiction à la drogue. Pourquoi ? Parce qu'on n'investit pas suffisamment dans certains services sociaux des appartements ou des résidences sociales pour les sans-abri. C'est un tout, c'est un manque de vision sur le long terme, on voit plutôt toujours court terme. Donc là on a un gouvernement qui est, on va dire, empressé de donner toujours des bonnes nouvelles dans un souhait, une motivation tout simplement pour être réélu, mais est-ce qu'il y a une vraie compréhension du potentiel de cette province? Je n'en suis pas certaine, et d'ailleurs c'est très difficile d'avoir des chiffres parce qu'il y avait beaucoup de personnes du secteur médical avec la Covid. Ils ont beaucoup souffert parce qu'il y a des coupes budgétaires au niveau de la santé en Alberta. Il y a des professionnels de la santé qui sont partis. Vous avez aussi des étudiants qui sont partis parce que les valeurs de ce gouvernement-là sur l'environnement, ça ne correspondait pas à leurs valeurs. C'est la génération, c'est la relève. On parle de réchauffement climatique. Et puis aussi au niveau de l'éducation, certains ne voyaient pas du tout leur avenir en Alberta, parce que des fois il n'y avait pas une continuité sur les programmes, que ce soit au niveau en doctorat par exemple, ou en maîtrise, où d'autres universités dans d'autres provinces pouvaient proposer ces programmes-là, ce qui n'était pas non plus le cas en Alberta. Donc pour différentes raisons, il y a un peu une sorte, peut-être pas de fuite des cerveaux parce que c'est très difficile à quantifier, mais ça m'est arrivé de parler avec des étudiants qui sont partis parce que ils voyaient pas leur avenir ici.
Merci Hélène Lequitte d'avoir passé près d'un an avec nous. Bonne route et à bientôt peut-être. Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. La demi-heure passe très vite. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par nos journalistes postés à travers le Canada, en français et en anglais. Rendez-vous sur canada-info.ca. Canada-info.ca, vous le savez, on est aussi connecté sur Twitter. Vous nous retrouvez @CanadaLJI. Canada LJI. On remercie nos journalistes aujourd'hui, Elisabeth Seguin, Sébastien Beltran et Hélène Lequitte. Merci à notre coordonnateur national Stéphane Bénard et aux artistes qui nous offrent leur musique. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
just the right thing for you. KUT 90.3.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, la communauté anglophone de la Basse-Côte-Nord au Québec s'inquiète de l'adoption de la loi 96 et de ses impacts.
Si en plus les médecins ne peuvent pas s'adresser aux gens dans leur langue puis qu'on n'a pas d'autres services d'appoint, c'est là que ça devient stressant, là.
Au Manitoba, la maison de production Manito Media a le vent en poupe, si bien qu'elle est à la recherche de nouveaux talents pour satisfaire ses projets d'expansion.
On a encore besoin de plus de monde. On a plein d'idées, on a plein de beaux projets dans notre communauté, mais ça nous prend du bon monde d'ici, des professionnels avec des spécialités. Donc, ceux qui écoutent, puis qui se disent « Ah, est-ce que je devrais peut-être aller étudier en communication à l'Université de Saint-Boniface? » Absolument, allez-y.
En Alberta, la région de Rivière-la-Paix pourrait d'ici peu être le berceau d'une nouvelle usine. Neolithica, en pleine campagne de relations publiques, espère décrocher un premier rôle dans la production de lithium. Et on fera le tour de l'actualité au pays dans notre nouvelle chronique Périscope.
C'est important pour moi de rencontrer les intervenants pour entendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi la réalité sur le terrain.
Bienvenue à Point de vue. L'adoption du projet de loi 96 par le gouvernement du Québec le 24 mai dernier inquiète les communautés anglophones de la province et notamment celle des Coasters de la Basse-Côte-Nord. Parmi les préoccupations soulevées, on note l'accès à des soins de santé en anglais, la francisation des entreprises et des organismes de plus de 25 employés, de même que l'accès à l'éducation en anglais. Pénélope Clermont s'est entretenue avec Kimberly Buffett de la Coasters Association et Karine Monger, directrice générale de la MRC du Golfe du Saint-Laurent, pour en savoir plus sur les inquiétudes qui habitent les Coasters face à la loi 96. Madame Buffett expose également les défis que rencontrent les communautés anglophones au Québec.
Le gouvernement du Québec a adopté le 24 mai le projet de loi 96 qui se veut une réforme de la loi 101. Cette nouvelle loi aura un impact dans les communautés anglophones du Québec, dont en Basse-Côte-Nord. J'ai pu parler à Kimberly Buffett de la Coasters Association ainsi qu'à Karine Monger, directrice générale de la MRC du Golfe du Saint-Laurent, qui ont pris le temps d'exposer les inquiétudes qui habitent les anglophones de la Basse-Côte-Nord. Inquiétudes qui viennent entre autres de l'incertitude qui règne autour de ce projet de loi dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants. Parmi les préoccupations premières des Coasters, on note la crainte de ne plus avoir accès à des soins de santé en anglais. Il y a eu beaucoup de rumeurs à ce propos et même si le premier ministre François Legault a indiqué que la loi 96 n'empêchera pas les anglophones et les immigrants de se faire soigner dans la langue de leur choix, ça fait partie des inquiétudes, d'autant que ce n'est déjà pas évident d'évoluer dans le système de santé si on est anglophone, comme l'illustre dans l'extrait qui suit Karine Monger, directrice générale de la MRC du Golfe du Saint-Laurent.
Pas tout le monde qui est capable de parler en anglais, même aujourd'hui. Donc, si une personne anglophone se déplace vers l'hôpital de Sept-Îles, il y a des médecins qui sont capables de recevoir ou de parler avec, de converser avec cette personne-là en anglais, mais il y en a qui ne le sont pas. Mais au moins, il y a des services qui sont en place. Puis si la personne est complètement, n'a pas les moyens ou sait que son médecin ne peut pas s'adresser, on sait qu'il y a des services d'un patient navigator présentement, là. Même chose du côté Québec. Mais tant et aussi longtemps que ces services-là demeurent, ben au moins c'est déjà ça. Mais si en plus les médecins ne peuvent pas s'adresser aux gens dans leur langue, puis qu'on n'a pas d'autres services d'appoint, mais c'est là que ça devient stressant, là.
Une autre préoccupation tient dans la réglementation qui entoure les entreprises ou les organismes de 25 employés et plus. Comme le rapportait récemment Radio-Canada, le projet de loi prévoit notamment la francisation de toutes les entreprises comptant au moins 25 employés. Jusqu'à présent, cette mesure ne concernait que celles ayant au moins 50 employés. Le projet de loi donne aussi de nouveaux pouvoirs à l'Office québécois de la langue française qui pourrait exiger qu'un comité de francisation soit formé dans ces entreprises. Kimberly Buffett de la Coasters Association n'était pas en mesure de chiffrer le nombre d'entreprises que cette mesure pourrait affecter, mais elle en parle comme d'un élément important de cette nouvelle loi qui toucherait notamment la Coasters Association. Elle rappelle aussi que la Basse-Côte-Nord compte plusieurs unilingues anglophones qui auraient du mal à évoluer en français si cette condition devenait obligatoire. Également, la question de l'éducation est préoccupante pour les coasters, dont les jeunes qui iront au cégep et qui devront suivre plus de cours de français. De plus, il y aurait un accès plus restreint aux écoles anglophones pour les francophones qui voudraient y accéder, au dire de Mme Buffett. Dans un autre ordre d'idées, je me suis permise de demander à Kimberly Buffett pour quelles raisons, selon elle, les coasters uniquement anglophones ne parlent pas français. Je vous laisse écouter sa réponse et je traduirai par la suite.
I think they're trying. Like, I think our children are much more bilingual. Like, if I look at myself, I'm 47 years old. When I went to school on Lorna Shore, there wasn't so much French in the school as it is today. You know, my children growing up right now, they speak French when they go places. They can read and they can write. There's a lot of improvements. So I think there's almost two generations on the Lorna Shore, that you have a generation that's more bilingual, which is our children, and then the older generation that's more unilingual anglophone.
En résumé, Madame Buffett souligne qu'elle pense que les anglophones essaient de parler français, mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Selon elle, la nouvelle génération de coasters est plus bilingue que sa propre génération. Âgée de 47 ans, elle mentionne que quand elle allait à l'école en Basse-Côte, il y avait moins de français à l'école qu'aujourd'hui. Résultat, ses enfants, contrairement à elle, parlent français, le lisent et l'écrivent. Il y a donc, selon elle, deux générations d'anglophones, les plus jeunes qui sont bilingues et les plus âgés qui sont davantage unilingues. En dehors de cet extrait, elle a souligné avec le sourire combien le français était une langue difficile à apprendre et que le fait de vivre dans des communautés anglophones n'aide pas à l'apprendre, le pratiquer et le maîtriser. Ce qui est dommage, comme l'évoque Mme Buffett dans l'extrait que j'ai à vous présenter, c'est qu'un projet de loi comme celui-ci crée de la tension entre francophones et anglophones, dit-elle. Il fait aussi en sorte, toujours selon elle, que ces derniers ne se sentent pas bienvenus au Québec. Heureusement, en Basse-Côte-Nord, elle a l'impression de vivre plus en harmonie avec les communautés francophones et innues, comme si on était dans une petite bulle, dit-elle, mais qu'en dehors de celle-ci, ce n'est pas facile.
It's not easy being an Anglo. And bills like this create a lot of tension, and the English people feel like they're not welcomed. And, you know, I think on the Lorna Shore, we live a lot more in harmony between the communities. And so sometimes we're in our little bubble. But, you know, on the exterior, it's very difficult.
C'était Kimberly Buffett de la Coasters Association qui parlait au nom des Coasters concernant le projet de loi 96. En terminant, autant la MRC du Golfe du Saint-Laurent que la Coasters Association ont affirmé être en contact avec d'autres communautés bilingues du Québec, statut bilingue d'ailleurs qu'ils espèrent ne pas perdre avec la mise en application de la nouvelle loi. Ils entendent poursuivre le travail de représentation qu'ils font auprès des différentes instances gouvernementales pour les sensibiliser aux réalités et aux besoins de notre région, comme mentionné dans un communiqué de presse de la MRC.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca. En Alberta, la région de Rivière-la-Paix pourrait d'ici peu être le berceau d'une nouvelle usine de lithium. L'entreprise Neolithica est d'ailleurs en pleine campagne de séduction pour convaincre les élus et les citoyens de la région que l'entreprise est saine d'un point de vue environnemental et qu'elle contribuera aussi à l'essor économique de la région. Neolithica s'est d'ailleurs présentée devant le conseil municipal de la Northern Sunrise County pour parler de son projet. Les technologies mises de l'avant par la compagnie promettent au dire de l'entreprise d'être durables et écologiques. Justine Dubrulle, à Rivière-de-la-Paix en Alberta, s'est entretenue avec les responsables de cette compagnie canadienne, de même qu'avec Caroline Kolebaba, la préfète de Sunrise County, dans l'extrait qui suit.
We're very excited about the project and hopefully all goes well within the next couple of years. They will be producing lithium. We look forward to helping them in any way we can to move that project forward.
Le comté espère que tout ira bien avec ce projet et est prêt à aider la compagnie autant que possible. Le projet de production de lithium n'est pas finalisé. Des tests doivent encore être faits afin de déterminer exactement dans quel comté, dans quelle municipalité se situeront les sites de production. On écoute Mark Preston, directeur du marketing à Neolithica Limited, nous donner un aperçu de la compagnie pour laquelle il travaille et du projet.
It's a fairly recent company. We started the company last June, Neolithica, and we acquired well over 1,000 square miles of.
La compagnie est jeune. Nous l'avons lancée en juin dernier. On a procédé à l'acquisition de 1000 km² de terre entre Peace River et Grande Prairie. Notre intention est de forer jusqu'au réseau aquifère, lequel contient une eau saturée de sel et qui contient aussi du lithium, de même qu'une foule de minéraux. On va en extraire ce qu'on appelle une liqueur de lithium, qui prendra alors la direction de la raffinerie pour en faire du carbonate de lithium pur à 99,5%.
And inside the brine is the lithium. So the brine itself has all kinds of different things in it, manganese, sulfurs, salts, all kinds of other minerals as well. But we're primarily just interested in the lithium because the lithium for us, once we take that out, we concentrate it in what we call a lithium liquor, and it's a concentrated batch. And that concentrated batch goes to the refinery, and then it gets refined down to 99.5% or better for battery-grade lithium carbonate. Lithium itself is used also in ceramics. It's glass for adding in the polymers when they're making glasses for certain productions.
Le lithium est aussi utilisé dans la production de verre, de lubrifiants, mais aussi dans le secteur médical. 80% de ce qu'on produira sera destiné à l'électrification des véhicules automobiles.
Le lithium est utile pour plusieurs différentes choses, comme la fabrication de batteries, de verre, de céramique et même dans le milieu de la santé. Un projet pilote commencera vers la fin de l'été ou vers le début de l'automne pour démontrer l'efficacité de la technologie qu'ils utilisent. Mark Preston est confiant que leur technologie est efficace car ils sont partenaires avec une autre compagnie de production de lithium, Conductive Energy, qui utilise la même technologie en Californie et ce, avec succès. Le projet pilote dans la région de Rivière-la-Paix servira à évaluer la qualité du lithium. Après cette étape, Neolithica devra déterminer l'emplacement du site principal, réaffecter 6 à 10 opérations de forage, extraire le produit, le transporter dans des camions-citernes à la raffinerie qui sera située entre Peace River et Grande Prairie. Cette industrie apportera beaucoup à la région. On écoute Preston parler des avantages économiques.
Pour nous, nous pensons que there's quite an economical impact because our first tranche will be probably $20 million, and then it will exercise back up to what we call full capex, in other words, full scale production, to be able to produce 20,000 tons.
On estime que le projet aura un impact positif. On devra dans un premier temps investir 20 millions de dollars. On devrait à terme pouvoir produire près de 20 000 tonnes de lithium chaque année. Pour arriver à ce chiffre, on devra investir près de 400 millions supplémentaires. La Chine, par exemple, veut avoir complété sa transition dès 2035. D'autres pays, en 2050, l'Alberta pourrait devenir un fournisseur mondial de premier ordre. On est très excités.
Alberta could really be a global supplier in all of this. But generally speaking, we're tremendously excited to start up in the north. We basically have years and years and years of work that we could supply. The global numbers, if you look at global numbers, the world right now consumes about 350,000 to 400,000 tons of lithium for its batteries and medical and ceramics and all the rest. The demand is 10 times in 5 years. So you see, there's a big rush on here to try to who can supply it. Whoever gets to the front race here pretty quick with the technology is going to make a lot of money.
Comme le dit Preston, c'est une industrie très prometteuse et non seulement du côté économique. Écoutons-le parler de la durabilité et des effets positifs sur l'environnement.
The reason that it's very unique and very low carbon.
L'exploitation de lithium a une empreinte carbone très faible du fait que son exploitation se fait en circuit fermé. On pompe l'eau et le lithium qu'elle contient et une fois extrait, on renvoie une eau encore plus propre dans le réseau aquifère à une profondeur d'environ
2500 mètres. and we're just taking the lithium out in a closed loop. So the environmental footprint on this is very low. We're not going after hard hydrocarbons or anything of the sort. So there's no stack, there's no burning or any of that kind of stuff because we're so deep down. We drilled down 2,500 meters.
Comparé aux autres technologies de production de lithium, celle-ci est très écologique. En extrayant le lithium, ils peuvent ensuite faire redescendre l'eau filtrée et encore plus propre dans la terre.
C'était un reportage de Justine Jubrul en Alberta. Alors, on fait une petite tournée des sujets qui ont marqué l'actualité des derniers jours au pays, vus par nos journalistes qui sont aux premières loges. À Ottawa, la littérature s'affiche dans de nouveaux sentiers. Avec l'événement Poètes de la capitale, les écrits de 22 poètes sont mis en valeur et reproduits sur des affiches disséminées dans différents quartiers de la ville. Notre journaliste Yasmina Dagri en a parlé avec l'ambassadeur de l'événement et écrivain Gilles Latour. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, n'a pas eu trop de mal à se faire réélire le 2 juin dernier. Il est sorti du scrutin avec une forte majorité. Son parti progressiste conservateur a raflé 83 des 124 circonscriptions de la province, dont celle du comté de Simcoe, qui a gardé sa couleur bleue, nous apprend notre journaliste Marc Lalonde, posté à Penetanguishene. Le taux de participation à cette élection a été extrêmement faible, de l'ordre de 45 %, mais si les moins de 18 ans avaient voté, le résultat aurait été tout autre, révèle une simulation électorale qui a été offerte à 250 000 élèves ontariens du primaire et du secondaire, notre journaliste Marc Lalonde.
On a incité les jeunes à découvrir le gouvernement, la démocratie, faire des recherches sur les partis, les plateformes. On a débattu en classe et puis on a fait le vote. Eh bien, 252 680 votes ont été signalés dans 1672 écoles. Et selon le vote des jeunes, bien, le NPD a obtenu 28% du vote populaire et remporté 75 sièges.
Wow!
Les libéraux font l'opposition avec 28 sièges. Quand même, les libéraux ont remporté le 22% du vote. Et le Parti progressiste conservateur a recueilli 18,7% des votes des jeunes. Il a remporté 17 sièges.
Le Polaroid fait un retour en force, oui. La Maison des artistes visuels francophones de Saint-Boniface et le Centre Plateforme de Winnipeg au Manitoba se joignent à la fête. Ils ont invité Annie-France Noël, une artiste acadienne originaire de Caraquet, qui habite le Nouveau-Brunswick, à y présenter un atelier de création Polaroid.
Les gens étaient très curieux de voir comment j'ai fait pour créer des œuvres comme ça à partir du Polaroid parce que je vais vraiment au-delà de la prise de l'image. Donc, j'ai eu l'idée à un moment donné, avec les questions et l'intérêt des gens, d'offrir un atelier comme ça où j'explique un peu mes découvertes, mes techniques. J'offre aux gens, c'est ça, la chance de vraiment mettre les mains à la pâte et de pouvoir explorer, de voir comment on peut aller au-delà de juste la prise d'image, de vraiment voir la photographie comme un médium qui est vraiment manipulable avec nos mains. Je fais une démonstration de 4 techniques distinctes. Puis ensuite, on s'amuse.
La ministre fédérale des langues officielles et responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Ginette Petitpas-Taylor, effectue une tournée du pays dans le cadre de la deuxième consultation pan-canadienne sur les langues officielles. Ginette Petitpas-Taylor a lancé sa tournée le 24 mai et elle doit prendre fin le 31 août prochain. Une tournée où elle a pour mission de rencontrer les communautés francophones, d'écouter leurs doléances et de partager leur réalité. Elle s'est entre autres déplacée à Winnipeg et Saint-Boniface.
J'ai eu la chance de rencontrer des intervenants qui travaillent d'arrache-pied pour soutenir la communauté. Il y a une croissance au Manitoba à cause de cette vitalité-là aussi. C'est important pour moi de rencontrer les intervenants pour entendre de vous c'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi la réalité sur le terrain. On reconnaît qu'il y a un déclin du français de notre pays, incluant le Québec. S'assurer qu'on va faire le travail nécessaire pour s'assurer que la nouvelle loi sur les langues officielles va rencontrer les besoins du 21e siècle. Et puis pour le faire, on doit appuyer nos communautés, nos intervenants, et le postsecondaire, nos groupes communautaires ainsi que les institutions communautaires.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter à CanadaLGI, @CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
La maison de production Manito Media est à la recherche de nouveaux visages pour sa série El Toro. L'un des trois membres fondateurs de cette maison de production franco-manitobaine, Charles Clément, dit Chuck, est producteur, animateur, comédien et scénariste. Il a travaillé pour de nombreux diffuseurs tels que APTN, Shaw, CBC, CanWest Global, TSN et la SRC. Il a été diplômé aussi de nombreux programmes d'études en cinéma, notamment au Royaume-Uni et en Australie. Ses frères Patrick et André et lui sont à la tête donc de Manito Media, mais aussi de Media Rendez-vous, des maisons de production franco-manitobaines et autochtones fondées entre 2007 et 2011. Ces maisons de production se spécialisent dans le contenu multiplateforme. Aurélie Nana Forsen s'entretient avec Charles Clément, fondateur de Manito Media. Il nous parle de ses passions et de ses projets.
Bonjour Charles.
Bonjour Aurélie, bonjour Guy.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette maison de production?
Je crois que c'était les mêmes motivations que j'ai eues en 1995 quand je venais ici travailler à la radio de CKXL 91,1 FM. C'était cette passion de vouloir raconter des histoires. J'ai toujours eu ça, moi, à cœur depuis que je suis petit garçon là, qui parcourait les rues de Saint-Boniface sur son vélo, puis qui faisait des petites scénettes autour de la maison, puis des pièces de théâtre communautaires. Donc, de raconter des histoires, ça a toujours été dans moi, et puis ça l'est encore aujourd'hui à l'âge de 46 ans. Donc, quelle meilleure façon que de le faire à la télé, en famille, en communauté. Alors, ça vient de là. Puis, ce que ça fait quand on est dans le monde de la production de télé et étant généraliste, parce que quand on vit à Saint-Boniface et non pas à Toronto ou à Montréal, où on peut se spécialiser vraiment dans un genre de télé, que ce soit en musique et variété, en documentaire, en jeunesse, en fiction, en télé lifestyle ou dans des magazines, on est en milieu franco-minoritaire où on doit être généraliste. On fait de la production de tous les genres. Donc, ce que ça nous donne la chance de faire, c'est de découvrir tellement de beaux sujets, de belles personnes, de belles communautés partout au pays. Donc, chez Manito Media, on a vraiment eu la chance de tout faire. C'était une très bonne chance jusqu'à présent de faire du jeunesse, de l'animation, des documentaires en masse, de la musique et variété, et de plus en plus maintenant de la fiction, parce qu'on entame très prochainement notre deuxième grande série fiction. Elle s'appelle El Toro. Donc, El Toro, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une histoire inspirée du documentaire de Danielle Sturck qu'elle a fait, le documentaire est inspiré de la famille de Danielle, la famille Desgagnés, qui était propriétaire d'un restaurant sur la rue Marion dans les années 60 qui s'appelait El Toro. Fast forward, 60 ans, nous voici en 2022. Oui, 60 ans, wow! À Saint-Boniface, on va produire une série de 6 fois 1 heure en fiction, et c'est avec Radio-Canada, nos chers partenaires en télédiffusion, qu'on va produire cette année. On va passer devant la caméra entre le mois d'août et le mois d'octobre, et la série va être diffusée l'année prochaine, en 2023. C'est cette grande histoire qui raconte l'histoire de la famille Charbonneau à Saint-Boniface dans les années 1960, et leur casse-croûte délabrée au fond de la rue Marion dans les vieux quartiers des abattoirs industriels à Saint-Boniface. C'est une histoire de famille et surtout racontée du point de vue de la plus vieille des sœurs dans la famille qui s'appelle Rosanne.
Et y a-t-il un projet en particulier dont vous soyez personnellement particulièrement fier?
Oh! Tous nos séries, que ce soit des séries documentaires, jeunesse, animation, fiction, quoi que ce soit, sont tous spéciales pour nous. D'abord, si on les produit, ces émissions-là, c'est parce qu'on veut s'impliquer, puis on a une passion pour le sujet, puis on veut communiquer, diffuser ces histoires-là aux autres. Mais si j'avais à dire le projet, c'est plutôt le projet communautaire dans lequel on est tous impliqués à faire rayonner les histoires du Manitoba en compagnie de tous ceux et celles qui sont ici avec nous, soit depuis toujours ou qui se réunissent avec nous au Manitoba francophone depuis pas longtemps. Donc, la communauté a beaucoup grandi au niveau de la communauté de production. Tous ceux qui travaillent comme pigistes dans leurs différentes spécialités et les maisons de production qui existent maintenant au Manitoba, entre nous et les productions Rivard et les producteurs, productrices Jérémy et Janelle Wookie de Wookie Films. Et parmi toutes les pigistes qui travaillent maintenant avec nous, c'est ça le projet duquel je suis le plus fier, parce qu'on commence vraiment à rayonner, de s'épanouir de plus en plus. Mais là, je fais une annonce publicitaire pour tous ceux et celles qui nous écoutent. On a regroupé de plus en plus de gens dans la communauté de cinéastes, de producteurs, productrices, scénaristes, etc. Mais on a encore besoin de plus de monde. C'est ça la plus grande chose en ce moment, c'est qu'on a plein d'idées, on a plein de beaux projets dans notre communauté qui émanent partout sur la planète, mais ça nous prend du bon monde d'ici, des professionnels avec des spécialités. Donc, ceux qui écoutent, puis qui se disent « Ah, est-ce que je devrais peut-être aller étudier en communication à l'Université de Saint-Boniface? » Absolument, allez-y!
C'était Charles Clément au micro d'Aurélie Nana-Forson. Voilà qui complète cette édition de Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLGI, CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca. Cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. On remercie nos journalistes Marc Lalonde, Aurélie Nana-Forson, Justine Dubrulle, Daniel Aucoin, Yasmina Dagri et Pénélope Clermont. Merci à Stéphane Bénard, notre coordonnateur national, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À bientôt.
398-4616. Get in the mix, stir the batter. Constant chatter on CKUT 90.3 FM. Did I miss something?
Bienvenidos a CKUT 90.3 FM. C'est le lendemain de la veille avec vos animateurs Marc-André et Nelson.